RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Et bonjour Louis Amar, bonjour à tous.
Dans un instant la Formule 1, on va revenir sur le Grand Prix de Chine remporté la semaine dernière par Lewis Hamilton avec notre invité Sébastien Bourdais, ex-pilote Toro Rosso aujourd'hui en IndyCar. Autour de 13h30, nous évoquerons la situation de nos Français, notamment celle de Pierre Gasly chez Red Bull. Et puis à 13h45, le MotoGP et un invité dans Radio Paddock, Loris Baz, qui reprendra sa carrière en Superbike dans un petit peu plus d'un mois. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Lucas Vinoy est avec nous, bonjour Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Reporter RMC Sport spécialiste. Sport mécanique, c'était donc il y a une semaine à l'aube en Chine.
RMC Motors.
Dernier virage pour Lewis Hamilton qui va s'imposer ici en Chine avec le drapeau à damier brandi par Alain Prost.
La victoire de Lewis Hamilton, 75e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Lui qui a la chasse du record de Michael Schumacher. Il l'a emporté avec ses Mercedes.
Dans le rétro.
Troisième Grand Prix de la saison, disputé donc dimanche dernier et remporté, vous l'avez entendu, par Lewis Hamilton. Je vous rappelle le classement de ce Grand Prix. Les deux Mercedes devant, Valtteri Bottas deuxième. Sébastien Vettel complète le podium sur sa Ferrari. On y reviendra. Max Verstappen est quatrième. Charles Leclerc cinquième. Pierre Gasly sixième. Là aussi, nous y reviendrons. Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Kimi Raikkonen et Alexander Albon complètent le top 10. Romain Grosjean, lui, est en 11e position. Jean-Luc, avec une semaine de recul, qu'est-ce que tu retiens de ce Grand Prix? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour la suite de la saison? Est-ce que c'est la domination de Mercedes, qui encore une fois n'a pas été contredite, ou la stratégie de Ferrari de privilégier Sébastien Vettel sur Charles Leclerc?
Eh bien écoute, pour faire une réponse à ta question, il y en aurait évidemment deux et tu les as soulignés, j'insisterai sur Ferrari parce que je crains malheureusement que cette saison soit déjà très mal engagée. C'est anormal que Ferrari, qui a été, on le rappelle, dominatrice pendant les séances d'essai hivernales, bon certes elle n'a pas écrasé Mercedes et on se doutait bien que Mercedes allait revenir dans le coup, mais quand même que sur trois Grands Prix, tu viens de le souligner, trois triplés Mercedes dans des conditions radicalement différentes, puisque on a été inquiet pour la performance des Ferrari en Australie, on s'en souvient, elle a vraiment, on n'a pas compris d'ailleurs à quel point ça ne fonctionnait pas, mais les deux Grands Prix suivants, et notamment le dernier avec cette erreur stratégique, bon, la panne technique électrique, ça aussi, on ne peut pas le commander, mais je trouve que là, si on commence à s'enferrer dans des stratégies débiles, j'ose le dire, et surtout essayer de les justifier après, non, on a le droit de dire en Formule 1 comme partout, ok, on s'est planté, on a eu un jugement, là aussi, évidemment, c'est toujours facile de juger de extérieur. On a eu un jugement qui n'a pas été le bon, en privilégiant effectivement Vettel, alors que au minimum, on aurait terminé 3 et 4 avec les Ferrari hein, derrière les Mercedes, c'est beaucoup plus proche. Donc on a saboté sa course et si on commence à se tirer des balles dans le pied chez Ferrari, ben je crains malheureusement qu'on ait beaucoup de mal à affronter Mercedes.
Lucas, évidemment, tu étais en Chine, tu es sur tous les Grands Prix, on le sait, pour RMC. Qu'est-ce qui faisait le plus parler dans le paddock après la course?
Bon, c'est les consignes d'écurie, en effet, on n'a pas trop compris pourquoi on a demandé à Charles Leclerc de laisser passer aussi vite Sébastien Vettel. Il n'y avait pas forcément d'urgence. On avait l'impression que Sébastien Vettel était un petit peu plus rapide que Charles Leclerc, mais c'était aussi grâce au DRS. Donc on comprend pas en fait, puisque Ferrari cette année, on pensait que Ferrari n'avait jamais eu autant les armes depuis tant d'années pour aller chercher, contrecarrer les plans de Mercedes. Et puis au final, après trois courses, ça fait trois doublés pour le constructeur à l'étoile. 31 points de retard pour Sébastien Vettel sur Lewis Hamilton, 32 points de retard pour Charles Leclerc sur Lewis Hamilton et 57 points de retard pour Ferrari par rapport à Mercedes. Donc trois grands prix et trois raclées entre guillemets prises par Ferrari. Donc il va falloir réagir tout de suite parce que sinon ce sera déjà trop tard.
Et c'est incroyable parce qu'on le dit, on le répète Jean-Luc, mais le mot raclé semble adapté puisque trois doublés à chaque fois des Mercedes. Et pour autant, en début de saison, on expliquait que c'était cette saison que la concurrence serait plus féroce que jamais entre les rouges et les gris.
Ben, bien sûr, et je crois qu'on n'est pas les seuls, hein. C'est toujours facile de dire après, ah, vous êtes planté dans vos prévisions, ça s'est pas passé comme vous le prévoyez, ben oui, mais je crois que personne n'avait prévu que ça puisse se passer comme ça, avec effectivement cette écrasante domination. C'est presque encore pire en termes de constructeurs, puisque Mercedes avec 130 points écrase Ferrari seulement 73, et Red Bull n'est finalement pas très loin avec 52, donc je crois qu'on peut plus parler des ratés, voire des ratages de Ferrari Ferrari après seulement 3 Grands Prix que de la réussite de Mercedes. Alors bien sûr, il faut être en mesure de récupérer et de récolter cet avantage quand les Ferrari ont des problèmes. Mais quand même, là, c'est pas la domination de Mercedes qui est écrasante, ce sont les erreurs de Ferrari qui commencent à devenir très perturbantes.
On va écouter les deux pilotes Ferrari, Sébastien Vettel et Charles Leclerc, à l'issue du Grand Prix de Chine dimanche dernier. D'abord, Lucas, rappelle-nous ce qui s'est passé pendant la course entre ces deux-là et quelle a été précisément la consigne de la Scuderia.
Ça a été très simple. Charles Leclerc était devant Sébastien Vettel. Les deux pilotes avaient sensiblement en fait le même rythme et Sébastien Vettel a demandé à ce que Charles Leclerc le laisse passer pour pouvoir tenter de ramarrer les Mercedes qui étaient devant. Alors Charles Leclerc n'a pas forcément compris cette consigne puisque Sébastien Vettel n'était pas en mesure de le dépasser sans consigne d'écurie. Et puis finalement quand Vettel est passé, lui n'a pas réussi non plus à s'échapper par rapport à Charles Leclerc. Donc les deux pilotes ont perdu énormément de temps puisque Charles Leclerc a dû quasiment littéralement s'arrêter sur la piste avant le premier virage pour laisser passer Sébastien Vettel. Et puis on s'est rendu compte que cette stratégie n'avait pas fonctionné. Ensuite on a laissé très longtemps Charles Leclerc en piste et puis finalement il a même pas réussi à finir quatrième puisque c'est Verstappen qui a fini quatrième.
On écoute Sébastien Vettel à ton micro Lucas après le Grand Prix de Chine.
Je pense que j'étais plus rapide au début. Bien sûr, derrière lui, je dégradais mes pneus. Et quand je l'ai passé, j'ai eu du mal à trouver un bon rythme. Au bout de quelques tours, j'étais capable d'aller un peu plus vite. Mais les Mercedes étaient déjà très loin devant. Nous devons savoir ce que nous aurions dû faire de mieux pour que nous finissions troisième et quatrième. Notre course était un peu différente après ça et c'est toujours un peu compliqué. Je pense que nous avons fait un bon jeu d'équipe. Comme je l'ai dit, un bon résultat aujourd'hui aurait été de finir troisième et quatrième et non troisième et cinquième.
Ça, c'était donc Sébastien Vettel. Écoutez la réponse de son équipier Charles Leclerc. Évidemment, il ne se plaint pas franchement de la consigne de son équipe, mais le diable se cache dans les détails. Écoutez.
Plutôt bon départ. Après, je pense que voilà, la perfo, elle n'était pas aussi bonne que celle de Mercedes. Mais bon, j'étais pas ridicule. Donc le premier relais, j'ai essayé de garder un petit peu les pneus. Après, je crois qu'il y avait Seb qui poussait pas mal derrière, donc ils m'ont demandé de switcher. Quand on a switché, malheureusement, on avait exactement la même perfo. Donc je suis resté derrière. J'ai encore plus abîmé les pneus. Et voilà. Après, je suis resté un petit peu plus longtemps dehors. Je ne sais pas pour quelle raison, faut que je demande au team. Pas une bonne course aujourd'hui pour nous, mais bon, on essaiera de rebondir sur à la prochaine course.
Plein de petits messages cachés quand même de la part de Charles Leclerc qui n'a pas l'air d'être énervé, mais qui fait quand même passer son message, hein, Lucas.
Avec il était dégoûté. Il était dégoûté. Voilà. Forcément, il a pas compris. Il était aussi rapide que Sébastien Vettel. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là de la saison que Leclerc soit troisième et Vettel quatrième ou l'inverse? Voilà, on lui a demandé, il a pas compris. Il a demandé plusieurs fois à la radio. Alors c'est vrai, c'est son troisième Grand Prix avec Ferrari, donc il se plie aux consignes. Mattia Binotto, le team principal de Ferrari, avait dit que si c'était 50-50, c'était avantage à Sébastien Vettel. Le problème, c'est qu'après, ils lui ont ruiné sa course en le laissant en piste, et il est même pas capable de terminer quatrième à la place de Max Verstappen, alors que pourtant, Ferrari avait clairement plus de performance.
Jean-Luc, ces dernières saisons, Sébastien Vettel n'était pas vraiment embêté par son équipier Kimi Räikkönen, qu'il dominait quasiment tout le temps et sans trop se forcer. On disait à l'intersaison que l'arrivée d'un deuxième pilote de très haut niveau qui pouvait aller titiller Vettel était une bonne nouvelle pour la Scuderia. À quel moment cette bonne nouvelle va devenir un problème?
Ben, c'est déjà le cas, Louis. C'est déjà le cas, puisque sur 3 Grands Prix, on a 2 consignes d'équipe. On a bien vu également qu'en Australie, Charles était beaucoup plus rapide que Sébastien Vettel. Il a fini sur ses talons. Ils finissent très très loin, effectivement, des Mercedes. Là aussi, là, on n'a pas pris la décision inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à Vettel de laisser passer Charles pour faire un meilleur résultat. Et clairement, encore une fois, même si on raisonne du côté de la Scuderia et qu'on met les pilotes et les personnes de côté, ben, au lieu d'avoir des résultats de 3e et 4e lors du dernier Grand Prix, on a 3 et 5, c'est très mauvais. Alors évidemment, c'eût été probablement dans l'autre sens, et Charles a la délicatesse de pas commencer à râler après 3 Grands Prix, mais je crois qu'on met de la frustration également dans les équipes, dans les relations entre les pilotes. Ça peut pas rester comme ça. Là, il faut immédiatement que la Scuderia ait une stratégie claire et qu'elle avantage le pilote réellement le plus rapide sur la piste.
Pour continuer à en parler, on accueille notre premier invité. Il a 40 ans, il a participé à 27 Grands Prix de Formule 1, 12 éditions des 24 heures du Mans. Il est actuellement engagé dans sa 10e saison en IndyCar. Sébastien Bourdais est en direct dans Motors. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Luc.
Oui, salut Seb, merci beaucoup de t'être levé tôt après cette épreuve de Long Beach. Alors écoute, on va peut-être revenir là-dessus, parce que là tu as réalisé déjà un petit exploit, c'est-à-dire que tu as pris part au Grand Prix IndyCar dans les rues de Long Beach, mais également à l'épreuve IMSA pour Ford. C'était pas un peu beaucoup ce programme?
Non, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que c'était pas prévu comme ça, mais c'était sympa. C'était la première fois que je roulais dans autre chose qu'une IndyCar à Long Beach et je me suis bien régalé. C'était bien marrant.
Alors Long Beach, c'est toujours un petit peu la loterie, hein. Tu y as brillé également dans le passé. Là, on a vu dès les qualifs que c'était un petit peu difficile, malheureusement pour toi. Tu termines 11e, on le rappelle, et tu es 8e au championnat IndyCar, hein. Comment ça s'est passé pour toi? Et on rappelle aussi que Saint-Pétersbourg, qui est l'épreuve d'ouverture de la saison, tu l'avais emporté à deux reprises. C'est chez toi d'ailleurs.
Ouais, bah disons qu'on est un petit peu en difficulté sur les setups avec les circuits urbains et ça se joue à chaque fois à pas grand chose, donc la marge de manœuvre est pas élevée, mais on n'arrive pas vraiment à trouver ce qu'on cherche au niveau équilibre et on avait essayé un setup un petit peu différent pour le vendredi, ça a pas marché, donc on est revenu sur les bases de l'année précédente, qu'on pensait relativement solide, en tout cas à Long Beach, et malheureusement tout le monde a progressé et donc on s'est retrouvé un tout petit peu court le lendemain en qualif. Il nous a manqué 5 centièmes pour passer en Q2 et puis après ça dicte le reste du week-end, parce que si tu pars derrière quand les écarts sont si faibles, il y avait quelques autos qui étaient quand même relativement rapides au milieu du peloton entre Hinchcliffe, Rosenquist et compagnie, et puis on est resté bloqué derrière. Et puis après, c'était terminé.
Alors, ça risque d'être totalement différent. En tout cas, on l'espère à Indianapolis. Je rappelle, je l'ai dit au championnat, tu es 8e avec 91 points. C'est très serré, hein. Juste derrière toi, il y a Graham Rahal. Mais juste devant, il y a James Hinchcliffe, il y a Will Power et Ryan Hunter-Reay en quelques points. On sait qu'en IndyCar, c'est souvent très serré. Alors, la première épreuve à Indy, ce sera une épreuve qui utilise le routier avant, évidemment, les fameuses qualifs pour les 500 miles. Comment tu abordes ce mois de mai?
Bon, comme d'habitude, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment un mois de mai à deux vitesses, hein. On a cette première étape qui est un routier assez sympa d'ailleurs. C'est assez différent. On roule relativement dur, très bas, des lignes droites assez longues, pas mal d'opportunités de dépassement et des virages qui sont pas super super rapides, donc un caractère bien particulier. Et puis bon, après on passe au mode super speedway et là c'est comme une autre philosophie et une autre histoire.
C'est un autre exercice. On se rappelle qu'on se qualifie sur 4 tours, hein, 4 tours lancés, et que bon, on va pas rappeler les mauvais souvenirs, mais on va rappeler le bon, c'est que t'étais pas loin de la pole il y a 2 ans à Indy sur cet ovale.
Ouais, bah disons que c'est vrai que ça fait 2 ans où on est vraiment dans le coup au niveau perfo. Craig, mon ingé, met énormément d'énergie et de temps sur Indianapolis c'est vrai que bon, en 2017 on était relativement loin devant, ce qui était moi j'étais le premier surpris. Malheureusement on a eu un petit souci sur le setup et la calibration du centrage aéro pour notre première tentative le samedi et ça a mal fini. Et puis l'année dernière on était malgré tout premier Honda, donc je pense que on est un peu attendu au tournant, mais c'est vrai que Chevrolet a mis un gros coup dans la fourmilière par rapport à la puissance moteur de l'an passé. Ils étaient vraiment supérieurs de façon assez sensible, donc on ne sait pas trop où on en sera cette année. Je pense qu'Honda a pas mal réagi, mais ce sera intéressant de voir les forces en présence relativement tôt dans la semaine.
Alors on va voir ça effectivement très bientôt pendant le mois de mai, on y reviendra naturellement dans Motor. Seb, évidemment on peut pas ne pas profiter de ta présence pour te parler de Formule 1. Tu as peut-être entendu le début de l'émission, évidemment la grande question, et je sais que tu suis ça, les consignes chez Ferrari, est-ce que c'est pas un peu tôt, est-ce que c'est pas un peu maladroit? On peut dire de l'extérieur une domination Mercedes, mais est-ce que c'est pas plutôt Ferrari qui commet des erreurs là?
Ouais, je crois que c'est un peu tôt pour dire. Après, je pense que s'ils ont demandé d'inverser les positions, il y avait probablement une bonne raison. Au-delà du fait que, en tout cas jusqu'à présent, il y a l'air d'y avoir clairement un numéro 1 et un numéro 2. Même si ça se voit pas forcément autant sur la piste, ils ont clairement cette philosophie-là. Donc je pense que Charles est celui qui a clairement surpris tout le monde d'entrée de jeu et c'est super parce que il a énormément de talent, ça se voit depuis le début, depuis quelques années même maintenant et donc je pense que ça va être intéressant à suivre. Est-ce que ça leur coûtera cher au final, je sais pas, je pense que ils ont une philosophie, ils vont s'y tenir, mais je pense que pour l'instant c'est trop tôt pour dire.
C'est trop tôt.
Sébastien Bourdais est l'invité de Motors en direct sur RMC. Sébastien, une question justement là-dessus, quand on est un jeune pilote comme Charles Leclerc qui arrive à côté d'un cador comme Sébastien Vettel, c'est difficile, non, de trouver le bon dosage entre montrer qu'on peut être aussi fort et ne pas non plus venir trop le titiller pour pas mettre le bazar dans son écurie.
Non, je pense que c'est très facile.
C'est vrai.
Il a tout à gagner. Charles a tout à gagner aujourd'hui. Et il le sait et il va en jouer à 100%. Et je pense que le plus difficile, c'est pour le vétéran, en l'occurrence, de se dire, bon, attention, aujourd'hui, on a un étalon, quoi, qui arrive dans la carrière et c'est difficile parce que, En tant que vétéran, bon bah c'est sûr il a l'expérience, mais il y a tellement de ressources aujourd'hui pour se préparer pour un Grand Prix et arriver hyper affiné. On le voit bien aujourd'hui comment ça se passe dans ces équipes de F1, c'est-à-dire qu'ils passent tellement d'heures au simulateur, les voitures sont des valeurs connues au moment où ça touche le sol et ça commence à rouler en piste. Donc il y a tellement peu d'inconnus. Sur un week-end de course, en même temps, Charles, la raison pour laquelle je dis il a tout à gagner, c'est que s'il est devant, c'est exceptionnel, et s'il est derrière, c'est normal. Donc il a pas de question à se poser. S'il se sent bien et que l'auto lui convient et qu'il est devant Vettel, c'est tout bonus, quoi.
Jean-Luc.
Oui, Seb, tu connais très bien justement Vettel, évidemment, tu l'as côtoyé de près. On a le sentiment, là aussi de l'extérieur, avec tout le respect qu'on doit à un quadruple champion du monde, évidemment, qu'il est un peu fragile, un peu friable moralement. On l'a vu l'an dernier commettre de grosses erreurs quand même aussi. Hein. Il a sa part de responsabilité dans l'échec de Ferrari, même l'année précédente. Est-ce que tu t'attendais à ça, à ce qu'il puisse craquer? Est-ce qu'effectivement Charles serait capable de le faire craquer?
Bon, je pense que tout le monde a ses limites. Après, personne n'est infaillible, mais je pense que autant quand il est en confiance, il est difficile à déloger, il est difficile à battre. Quand il perd un tout petit peu de son hégémonie, c'est vrai que je pense qu'il est prenable. C'est-à-dire que bon, on l'a vu avec Ricciardo il y a quelques années. Ça lui a fait beaucoup de mal. Alors bon, je sais pas pourquoi cette année-là l'auto lui convenait pas à ce point-là, mais moi de mon vécu, c'est sûr que dans une voiture il est difficile à conduire, qui peut à la limite bien lui convenir, il est difficile à prendre. Dans une voiture vraiment bien réglée avec un pilote qui fait bien le boulot, il y a de la place pour lui tenir tête, quoi. Enfin, je vais pas fanfaronner, hein. J'ai pas une expérience en F1 qui a été particulièrement heureuse, mais dans la première version avec la première Toro Rosso, bon, je crois qu'on était à 3-2 en qualif, il y avait pas à crier à la domination après, c'est sûr que dans une auto dans laquelle moi j'étais vraiment très 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 inconfortable et lui s'en accommodait, et par contre l'auto avait du potentiel à ce moment-là pour se montrer beaucoup plus devant. Bon bah là c'était plus la même histoire, donc je pense que je pense vraiment le plus gros problème qu'il a aujourd'hui c'est cette pression qu'on lui met quelque part, même pas que lui se met, mais où tout le monde attend qu'il tape le nouveau, sauf que le nouveau il a beaucoup de talent et que lui il a rien à perdre. Donc c'est toujours des situations qui sont difficiles pour les pilotes qui sont en place quand t'arrives avec un jeune comme ça qui a lui rien à perdre et au contraire tout à gagner, quoi.
Tout à gagner. On rappelle que tu l'as côtoyé chez Toro Rosso en F1 en 2008. et 2009. Petite question sur les commentaires que vous pouvez peut-être ou pas avoir d'ailleurs avec les anciens pilotes de F1 qui en IndyCar, il y en a pas mal, hein. Il y a Takuma Sato notamment, il y a aussi Alexander Rossi, il y a Rosenquist. Enfin, est-ce que vous en parlez un petit peu de la F1 ou c'est même pas un sujet?
Oh, oui, ça discute un tout petit peu de temps en temps, mais enfin, je pense que nous, de notre côté, on est relativement heureux de ce qu'on a, c'est-à-dire que c'est la course beaucoup plus à l'ancienne avec des valeurs qui sont c'est plus clair. Proches du sport que de la politique et de tout ce qu'il peut y avoir à côté en F1.
Merci beaucoup Sébastien Bourdais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche dans Motors et à très bientôt évidemment sur
RMC.
Salut
Seb, merci.
13h23 dans un instant, on revient à la F1, on s'intéressera à nos Français, notamment à la situation de Pierre Gasly chez Red Bull. D'abord deux directs en cours en ce début d'après-midi, on commence par le tennis, la suite de la demi-finale de Fed Cup qui oppose la France à la Roumanie à Rouen. Caroline Garcia est en train de réussir un sacré coup face à la numéro 2 mondiale. Salut Anthony Reich.
Salut Louis, tout à fait, 16 minutes de jeu ici à Rouen et début de match exceptionnel de Caroline Garcia qui mène 3-0, elle a déjà breaké Simona Halep et là elle a encore une balle de break sur le service d'Halep pour mener 4-0. Elle est vraiment exceptionnelle dans ce début de match et c'est le break effet, 4-0 après 16 minutes de jeu. Incroyable. La France est bien partie.
On rappelle Anthony qu'il y a un partout avant ce simple-là.
Un partout tout à fait après les simples d'hier.
Parfait Anthony, à tout à l'heure. On court également du vélo, l'Amstel Gold Race. Salut Arnaud Souk.
Salut Louis, salut à tous. Il reste encore 161 km à parcourir pour les 11 échappés, dont le français Julien Bernard de Trek Segafredo. Ils ont 8 minutes d'avance sur le peloton, dans lequel on retrouve notamment Julien Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Brian Coquart côté français.
Les Français de la Formule 1 justement, on y vient dans un instant. 13h24 sur RMC, à tout de suite dans Motors.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h27, bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur RMC Motors, c'est là jusqu'à 14h avec Jean-Luc Roy et avec Lucas Vinois. Dans une dizaine de minutes, Benoît Boutron nous rejoindra pour Radio Paddock. En attendant, on continue la F1 et on s'intéresse à nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Il y en avait un dans les points la semaine dernière à l'issue du Grand Prix de Chine. Il s'appelle Pierre Gasly, 6e position. On va y revenir dans un instant. On rappelle également que Romain Grosjean a lui terminé 11e, donc aux portes des points. Et que Renault a réussi à placer une voiture dans les 10 premières. Il s'agit de celle de Daniel Ricciardo. On y reviendra également. Cette 6e place de Pierre Gasly, Lucas, est-ce qu'elle peut changer sa saison ?
Bah, disons que c'est une progression par rapport à son début de saison qui a été compliqué. Il a fait 11e en Australie, 8e à Barré, 6e en Chine. Donc c'est de mieux en mieux. Maintenant, il va falloir faire plus, il va falloir mieux se qualifier, il va falloir surtout se rapprocher de Max Verstappen en rythme de course. Ensuite, c'est la décision, c'est Red Bull qui l'a entre ses mains. On sait que c'est une écurie qui n'est pas forcément réputée pour être patiente. Donc il va falloir qu'il se mette au diapason rapidement. Ses résultats seront scrutés forcément à bas coût. Il n'y a pas péril en la demeure. Il progresse, mais en effet, il ne va pas falloir perdre trop de temps en route.
Il est quand même un peu sous pression.
Oui, forcément. Forcément, quand vous êtes dans une écurie comme Red Bull, que vous êtes à 8 dixièmes en qualification de votre coéquipier, que vous êtes très très loin en course, même si vous avez bénéficié d'un arrêt au stand pour aller chercher le point du meilleur tour. Voilà, ça ne suffit pas. On avait dit à Pierre Gasly qu'il faudrait qu'il soit au niveau de Ricciardo à mi-saison. Pour l'instant, il est encore loin du niveau de Daniel Ricciardo l'année dernière. Il était moins loin, en tout cas, Ricciardo était moins loin de Verstappen que ne l'est Pierre Gasly en ce moment. Donc voilà, il va falloir progresser. Il y a de la pression, bien évidemment. C'est une grande écurie et on n'est pas forcément prêt à attendre trop longtemps que Pierre Gasly s'adapte. C'est pour ça qu'il va falloir réagir assez vite.
Jean-Luc, on va pas faire ce qui tombe du ciel, mais quand même, la pression et l'impatience chez Red Bull sont assez incroyables, assez impitoyables même.
Et impitoyable, oui, on discutait avec Seb Bourdais, malheureusement il en avait fait les frais aussi, c'est vrai qu'on a ses têtes, hein. On sait très bien que du côté du docteur Helmut Marko, puisque c'est lui évidemment qui préside aux destinées des pilotes, on fait la pluie et le beau temps, on décide comme ça de manière arbitraire, cassante, pourtant je rappelle que c'est un ancien pilote de Formule 1, Helmut Marko, et d'endurance d'ailleurs, il a connu beaucoup de succès en endurance, là c'est un peu rapide et j'approuve évidemment et je suis tout ce que vient de dire Lucas. Alors, on en est à 3 grands prix seulement. Alors certes, il est loin en termes de chrono. Ça oui, il le sait, il est le premier à le savoir. Apparemment, même du côté de Christian Horner, je dirais pas qu'on le défend parce que c'est pas le genre de la maison non plus, mais on dit que son style de pilotage ne conviendrait pas forcément à la monoplace qu'on met à sa disposition. Donc il doit modifier son style. D'ailleurs, c'est ce que Pierre, hein, je pense que Lucas va le confirmer, a dit, comme il a fait une course extrêmement solitaire lors du dernier Grand Prix en Chine, eh bien il a eu le temps justement d'essayer certaines choses en termes de pilotage, parce que faut rappeler qu'en Formule 1 on roule pas beaucoup, on économise les organes mécaniques, puisque c'est l'obsession absolue de ne pas tomber en panne avec ces fameux organes mécaniques qu'on ne peut pas changer, ils sont très limités pendant la saison. Là, il a eu finalement un Grand Prix d'essai, il y avait personne devant, personne derrière, donc il a pu essayer d'autres choses. Espérons qu'effectivement, allez, la norme, s'il est entre 2 et 4 dixièmes de la référence Verstappen, ce sera très bien.
Oui, mais Verstappen, il faut le rappeler aussi, Verstappen, c'est un crack, hein. C'est quand même un pilote qui pour son premier Grand Prix avec Red Bull a été s'imposer en Espagne, qui va très très vite, qui a une gestion des pneumatiques qui est absolument exceptionnelle. C'est un peu l'archétype du pilote presque parfait avec Lewis Hamilton en Formule 1 aujourd'hui. Il fait peu d'erreurs, ou alors quand il en fait, de toute façon, il va tellement vite qu'il revient. Il tire le maximum aujourd'hui du potentiel de sa monoplace. Et forcément, Pierre Gasly, qui a peu d'expérience en Formule 1, qui a 29 Grands Prix à son actif, Verstappen en a 84, Verstappen c'est sa 5e saison. Il est chez Red Bull depuis 4 ans. Donc forcément, tout ça, ça joue aussi sur les performances de Pierre Gasly. Il le sait qu'il faut qu'il progresse et il se met aussi la pression. Il se rend compte qu'il est loin. L'année dernière, il a outrageusement dominé Brendan Hartley. Là, il se retrouve dans une situation un peu différente. Certaines déclarations, on sait que chez Red Bull, ce n'est pas détendre. C'est pas des personnes qui vont aller vous chouchouter et vous dire tout va bien, t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Helmut Marko, Christian Horner sont parfois très très durs et les déclarations que peut lire Pierre Gasly par presse interposée, c'est aussi difficile. Voilà, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il se concentre. Il a été à Milton Keynes cette semaine pour travailler sur le simulateur et Pierre Gasly a du talent et tout va rentrer dans l'ordre, on en est certain.
Pierre Gasly, à ton micro, Lucas, qui exprimait son soulagement à l'issue du Grand Prix de Chine la semaine dernière et donc de sa 6e place.
Ça a été long et j'étais assez seul pendant toute la course, donc pas grand chose à faire, essayer de faire attention aux pneus. On est allé pour le meilleur tour en course à la fin, donc c'est mon premier meilleur tour en course en F1. C'est sûr que ça fait toujours plaisir et on a vu qu'on avait un pit stop gratuit avec le gap qu'on avait derrière. Donc ce qu'on a décidé de faire, et je pense que bon, ce week-end ça a été encore un peu compliqué, et c'était de repartir avec 9 points. Je pense qu'on peut être content de ça.
Lucas, est-ce que la concurrence est saine entre Pierre Gasly et Max Verstappen? Est-ce que, pour le dire clairement, ils se battent à armes égales?
Je pense que pour l'instant, non. Pour l'instant, Max Verstappen bénéficie des meilleures pièces. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans le paddock. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en effet, Pierre Gasly a un petit peu plus de mal. On sait, et on va le rappeler, c'était quelque chose qui arrive relativement souvent chez Red Bull. À l'époque, Sébastien Vettel bénéficiait davantage de pièces performantes que Mark Webber. Ensuite, l'année dernière, on sait que Daniel Ricciardo a été réduit...
Oui, surtout depuis qu'on avait appris qu'il partait.
Voilà, il avait pas toutes les nouveautés aérodynamiques et on l'avait laissé avec une voiture qui ressemblait plus à celle du début d'année que de la fin de saison. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des nouveaux éléments à tester, ils vont d'abord sur la monoplace de Max Verstappen, ça c'est certain.
Jean-Luc, ton avis là-dessus?
Tout à fait d'accord, bien évidemment. Je crois que c'est beaucoup plus insidieux même, et cette pression qu'on met à Pierre, alors on devrait être beaucoup plus rassurant si on voulait vraiment le ménager en lui disant, bon écoute, tu as du temps, et puis ma foi, si je regarde le classement général provisoire au championnat, vous me direz c'est depuis le dernier Grand Prix où il a pris 9 points, mais il a 13 points, il est 6e au championnat, c'est pas honteux pour le moment, même si l'écart avec Verstappen, qui est la référence absolue, et puis comme tu le disais Lucas, on a tout misé chez Red Bull sur Verstappen. Donc, et on entend d'ailleurs, moi j'en reviens, je suis désolé, je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, moi je dis que dès le premier Grand Prix en Australie, quand on l'empêche de faire sa 2e tentative, on a tout de suite situé le problème. Moi je suis navré, mais on a mis bien Verstappen devant et bien Gasly derrière, comme ça après tout le reste découle naturellement, je dirais.
Une bataille Verstappen-Gasly qui sera également très intéressante à suivre le week-end prochain en Azerbaïdjan, sur un circuit particulier où les deux Grands Prix qui se sont déroulés ont été ultra spectaculaires. Donc franchement, soyez avec nous dimanche prochain, c'est 14h10, hein,
c'est
heure
ça.
Française, ce Grand Prix, avec toi Lucas, avec toi Jean-Luc et avec Adrien Tambay, qu'on embrasse. Romain Grosjean, lui, il court toujours derrière son premier point de la saison. On a l'impression que les championnats se succèdent et se ressemblent un petit peu long au démarrage. Romain Grosjean, Jean-Luc, alors deux abandons, dont un en Australie qui n'est pas de son fait, et une 11e place vraiment aux portes des points la semaine dernière en Chine.
Bah écoute, oui, comme tu le soulignes, on espère que le purgatoire sera moins long que l'an dernier, parce que l'an dernier c'est passé très près, hein, il a fallu attendre très très longtemps avant qu'il commence à concrétiser, à marquer des points. Alors effectivement, il y a de la malchance, il y a effectivement des problèmes mécaniques ou techniques. Là apparemment on exploite mal les pneus, mais bon, la comparaison c'est toujours avec l'équipier, hein, et Magnussen, lui, obtient de meilleurs résultats, et également en qualif maintenant. Donc je crois que oui, il va falloir réagir très très vite.
Même si Romain n'a pas forcément plus pu se défendre, hein, en Australie, c'est vrai qu'il a eu,
oui,
il a eu son problème, il a été harponné par Lance Stroll, c'était à Bahreïn, le Canadien, ça fait rire
Louis,
ça,
dit,
ça,
hein.
Ça fait rire Louis, mais le Canadien arguant qu'il n'y avait pas assez de place pour l'éviter, et puis malheureusement la voiture ne fonctionnait pas forcément bien en Chine, puisque Kevin Magnussen n'a pas été capable de faire mieux. Mais on a quand même l'impression que la Haas souffre beaucoup cette année. On a du mal à trouver les bons réglages, et surtout ce qui est très important en Formule 1 aujourd'hui, c'est l'exploitation des pneumatiques, et on a l'impression que l'écurie américaine n'y est pas cette année de ce côté-là.
On verra le sort réservé à Romain Grosjean en Azerbaïdjan la semaine prochaine. On termine le French's Corner avec Renault. Renault qui finalement est peut-être un peu en retard sur son tableau de marche. Justement, je veux t'entendre là-dessus, Jean-Luc, parce que Renault avait annoncé un ordre de progression finalement depuis son retour en Formule 1. D'abord, redevenir une équipe compétitive, recruter des pilotes qui permettent de passer un cap, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz l'an dernier, Daniel Ricciardo maintenant, pour essayer d'aller chercher des podiums, ça devait être cette saison. Et pour l'instant, Renault est quatrième, avec 40 points de retard déjà sur Red Bull, Jean-Luc.
Eh oui, là c'est sincèrement pas le début de saison du tout auquel on s'attendait. On rappelle que l'objectif, et il était clairement défini par Cyril Abitbol, c'était de monter en puissance, et on peut dire que ce début de saison 2019, ça n'est pas ça du tout, avec un piètre total de 12 points, c'est-à-dire au même niveau qu'Alfa Romeo, hein, qui en compte 12 également, et Haas en compte 8 avec les problèmes qu'on a connus. On est très 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 loin des trois grosses écuries, et puis surtout il y a eu cet abandon piteux, presque honteux, des deux machines qui s'arrêtent simultanément à trois tours de l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn. Là, je crois que c'était effectivement le calice a été bu jusqu'à la lie. D'ailleurs, les propos de Cyril Abitbol étaient très clairs. Il faut absolument réagir. On a un déficit de performance, on le sait bien, dans le moteur. Surtout que le moteur Honda, lui, a énormément progressé. J'aurais tendance à dire, malheureusement, que le groupe Renault maintenant semble être globalement le quatrième du plateau. Et puis, comme on n'a pas beaucoup progressé en châssis, ben, ça veut dire que le résultat est difficile, et là même se maintenir quatrième, honnêtement, avec ce qu'on a vu sur les trois premiers Grands Prix, ben, c'est pas évident du tout.
Lucas, est-ce que ça se tend un petit peu chez Renault?
Ben forcément, hein, on attend plus de résultats, il y a eu trop d'abandon depuis le début de saison, et puis en effet, le plan c'est d'être champion du monde en 2021, donc c'est sûr que ça se rapproche, les années avancent, et le gap, l'écart entre Renault et les top teams n'est pas comblé. Alors après, on aura une grosse réponse au niveau moteur à Bakou, puisqu'on a la plus longue ligne droite, la plus longue pleine charge du championnat. Donc là, on va voir un petit peu les différences qui vont être faites. Chez Renault, on se dit qu'on a un bon moteur, le troisième meilleur. On est encore devant Honda. Chez Honda, on dit qu'on a progressé, mais pas assez. Donc on va voir qui dit vrai. Mais c'est sûr que pour l'instant, le début de saison n'est pas satisfaisant pour Renault, loin de là.
On rappelle les rendez-vous, quatrième Grand Prix de la saison, le week-end prochain, samedi 14h, les qualifications évidemment en direct sur RMC, dimanche 14h10, la course, et juste avant cela à 13h, une édition spéciale de Motors, bien sûr entièrement consacrée, avec toutes les interviews des principaux pilotes à ce quatrième Grand Prix de la saison. Merci beaucoup Lucas, et bon voyage en Azerbaïdjan.
Tu verras, prochaine à Bakou.
Souvent tortueux comme voyage, mais en général, on y est bien. Jean-Luc,
salut, Lucas.
Je te garde dans un instant, Radio Paddock, mais d'abord les directs. Anthony Reich, comment dit-on, remontada en roumain?
Ça, je sais pas,
bon
Louis,
courage.
Mais en tout cas, c'est un match d'une extrême intensité, un match de très très haut niveau, digne des meilleurs matchs de Roland-Garros. Et effectivement, dans ce premier set, Caroline Garcia était très bien partie, mais cette fois-ci, elle s'est fait remonter, et c'est la Roumaine Simona Halep qui a débreaké par deux fois. Elle n'est plus menée que 4-3. Elle a 2 balles pour revenir à 4-2, Simona Halep, sur son premier service. Et voilà, c'est fait, 4-2 après 32 minutes de jeu.
Aïe,
et
aïe.
C'est très difficile parce qu'Halep s'est survolté il y a quelques jeux. Ça va être difficile d'aller la chercher dans ce premier set, surtout que Caroline Garcia commence un petit peu à s'agacer de ses quelques fautes. Mais il faut prendre des risques, il faut y aller face à la deuxième joueuse mondiale.
Le vélo, l'Amstel Gold Race, Arnaud Souk.
Je me permets de faire du roumain, j'ai fait roumain LV2. On dit Ascension, Ascension la remontada. Enfin, il faut traduire remonter en français, donc Ascension en roumain.
Il est énorme.
Bref, on en est où nous? On en est à moins de 150 km désormais de l'arrivée ici sur une d'arrivée justement près de Maastricht aux Pays-Bas de cette édition 55e du nom de l'Amstel Gold Race. Et 11 échappés ont toujours 8 minutes d'avance sur le peloton. Et parmi eux, le français de l'équipe Trek Segafredo, Julien Bernard. Les autres français, on le rappelle, Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Brian Coquart et Rudy Mollard, notamment, sont dans le peloton.
Merci Arnaud, à tout à l'heure, 13h40, la suite de Motors dans un instant, et Benoît Boutron pour Radio Paddock, ne bougez pas.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Avec Jean-Luc Roy, 13h41, Motors en direct sur RMC jusqu'à 14h. À 14h, vous retrouvez l'intégral sport avec Christophe Cessieux. Au programme notamment cet après-midi, 3 matchs de Ligue 1, la demi-finale de Champions Cup de Toulouse au Leinster et le vélo avec l'Amstel Gold Race. Mais d'abord Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Lucho, salut le King, salut à tous.
On en profite Benoît, puisque tu vas t'offrir quelques jours, quelques semaines de vacances bien méritées. Exactement. Et donc c'est la dernière fois avant un petit moment que tu es avec nous dans Radio Paddock.
Ah oui. Il va se passer des trucs pendant mon absence. Ah là, il y aura pas mal de grands prix, mais je vous écouterai.
Exactement. Puis peut-être même on te passera un petit coup de fil.
Et je vous regarderai.
Ça pour le plaisir.
Et je mettrai une note à chaque chemise de Jean-Luc Croix. Une note entre 1 et 10.
Absolument. Prépare ton balancier.
Sache que ta chemise de la semaine dernière est cotée à 8 sur 10.
Ah oui, oui.
Ça, impeccable. Je peux faire mieux. Je vous promets.
J'en suis sûr. Tu peux toujours faire mieux. Qui en doute? Benoît, on attaque Radio Paddock avec le MotoGP. Et puis dans quelques instants, on sera avec notre deuxième invité de l'émission, Loris Baz, l'ancien pilote moto justement.
Oui, vous rappelez le résultat du Grand Prix des Amériques qui s'est couru à Austin dimanche dernier avec un événement. Marc Marquez qui a chuté au sens propre comme au sens figuré, puisque vous le savez, c'est lui le grand maître des lieux aux États-Unis. Il avait une série assez intéressante depuis qu'il évoluait en Moto2 en 2011. Il avait remporté toutes les courses disputées sur le sol américain auxquelles il a participé. Austin, Indianapolis, Laguna Seca. C'était 12 victoires de suite made in USA pour Marc Marquez, qui est parti en pole position une nouvelle fois à Austin, qui contrôlait tranquillement la course jusqu'au 9e tour. Il avait 3 secondes d'avance sur Valentino Rossi. Et voilà, Jean-Luc nous en parle toutes les semaines, c'est celui qui prend le plus de risques, il a pris trop d'angle sur un virage à gauche, il a chuté, il a tout fait pour repartir, il n'a pas réussi et du coup il a dû abandonner, ce qui a laissé le champ libre ensuite à Alex Rins, qui a réussi à doubler Rossi et qui s'est offert une belle victoire. Jean-Luc, c'est ce qu'on peut retenir du week-end dernier.
Et oui, je crois que même avec tout le talent dont il fait preuve régulièrement, Marc a été un peu trop gourmand là, parce qu'effectivement c'était pour lui. Il est en train de creuser l'écart. Il s'est très légèrement écarté de la trajectoire. On l'a vu, c'était un petit peu poussiéreux. La roue avant est partie. C'était même pas une chute très grave. Effectivement, si sa machine avait pu redémarrer, il aurait pu sauver des points. Ça, à l'évidence. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est une petite leçon, je crois. En tout cas, ça nous a offert un final absolument fabuleux entre Alex Rins, dont c'est la première victoire en Grand Prix, il faut le rappeler, avec la Suzuki, et Valentino Rossi qui lui en compte quelques-unes, et la bagarre a été formidable. D'ailleurs Rossi, qui ne manque pas une occasion effectivement d'en rajouter, a dit: mais Alex Rins, maintenant il faut faire attention, il faut le compter dans les prétendants potentiels au titre de champion du monde.
Et il faut
je
le croire,
ne suivrai pas tout à fait là-dessus.
Non. non,
pas tout à fait.
C'est une belle perf pour Rins, qui était parti 7e sur la grille. Donc quand même c'est un événement ce qu'il a réussi à faire la semaine dernière. Après, tous les amoureux de moto ont forcément le regret de ne pas avoir vu Rossi s'imposer. Ça fait 2 ans qu'il court après une nouvelle victoire. Cette fois-ci, on pensait que c'était la bonne et il n'a pas réussi à tenir le rythme jusqu'au bout, hein, Jean-Luc, c'est dommage.
Une petite erreur. Oui, la Yamaha a l'air un peu plus en forme que l'an dernier, fort heureusement. On se rappelle qu'il y avait eu une seule victoire pour Yamaha. Elle n'était pas pour lui, elle était pour Vignales. D'ailleurs, bien terne, bien triste, il faut le dire, hein, Vignales seulement 11e. Alors revenons à Rossi. Ben on va arriver en Europe à Jerez, qui est un circuit que Rossi aime bien. Puis la France après. Et pourquoi pas une victoire de Rossi en France, hein. On sait qu'il y a eu plusieurs tribunes, même à son oncle. Claude Michi s'occupe de ça et très bien. Donc c'est vrai que revoir Rossi qui court toujours après son 10e titre de champion du monde en MotoGP, pourquoi pas, il est à 40 ans, et tu vois, les vieux font de la résistance, c'est ce que je veux dire.
On vous rappelle donc le classement de cette course du circuit des Amériques, victoire d'Alex Rins devant Valentino Rossi, 3e place pour Jack Miller, Andrea Dovizioso termine 4e, Franco Morbidelli 5e, 7e place pour Fabio Quartararo, qui confirme son bon début de saison, lui, Jean-Luc, hein, le français.
Oui, Fabio, là, effectivement, il est sur une trajectoire ascendante. Jusque-là, il fait le sans faute. On peut le dire avec le matériel dont il dispose, même si Franco Morbidelli a fait encore plus fort la cinquième. Mais Fabio, qui débute dans cette catégorie MotoGP, a trouvé chaussure à son pied. Il semble que la Yamaha lui convienne parfaitement. Et là aussi, pourquoi pas l'exploit en arrivant sur le continent européen, RRS et puis la France. Je pense que pour le moment, il est vraiment sur une trajectoire ascendante. Et puis, il se pose pas de questions. Il ne commet pas d'erreur, touchant du bois, peut-être un exploit à venir pour Fabio.
Justement, notre invité a participé à 33 MotoGP. Dans un peu plus d'un mois, il reprendra sa carrière en Superbike. Loris Baz est avec nous dans Motors. Bonjour Loris.
Bonjour à tous.
Et
bonjour,
merci Loris. D'être avec nous.
Salut Loris.
Avec plaisir, merci à vous.
Jean-Luc.
Oui, Loris, écoute, c'est très très sympa d'intervenir en direct dans Motors sur RMC. Alors justement, la première question, c'est évidemment des nouvelles de ton côté. On sait que tu étais parti du côté du Superbike, et je crois que la très bonne nouvelle, c'est que tu vas intégrer l'une des meilleures équipes de Superbike.
Ouais, voilà, exactement. On a eu la présentation du team Tenkate Racing Yamaha hier. Donc cette équipe qui est une entité du championnat du monde Superbike, qui est associée à championnat depuis de nombreuses années, et qui était avec une autre marque depuis leur début, qui a changé, qui passe Yamaha. On a un très bon soutien de Yamaha, et moi c'est un peu un retour aux sources avec cette marque de cœur, si je peux dire, avec Jean-Claude Olivier qui m'a lancé, et voilà, Eric Dessen qui a pris qui continue tout ce que Jean-Claude avait si bien fait et qui a poussé pour que ce projet aboutisse, et je l'en remercie. Donc hâte de commencer. Ça a été une saison très compliqué l'année dernière, où j'ai pas pu du tout me battre aux places auxquelles j'ai envie de me battre et auxquelles je suis capable de me battre, et je me suis battu par le passé. Donc j'ai décidé en fin de saison de signer uniquement quand j'aurai une bonne machine. Je l'ai pas eu pour le début de saison, et on a pris le risque d'attendre avec mon manager, et voilà, donc ça paye enfin. C'était le bon choix, mais ça a été un hiver un peu long, quoi.
On s'en doute. Écoute, c'est génial, c'est une très très belle nouvelle, et on va suivre évidemment ta saison en Superbike avec plaisir, et moi ça me fait plaisir aussi évidemment que tu fasses référence à JCO, tu le sais, qui était un ami, et à Eric Dessen qui a repris le flambeau pour Yamaha, que tu connais bien. Allez, on en vient en MotoGP si tu veux bien, parce que tu as roulé pour KTM un peu l'an dernier. Alors évidemment, là je vais évoquer les problèmes que rencontre Johan Zarco. Qu'avais-tu pensé d'ailleurs de cette machine, pour cette pige que tu avais fait en Grande-Bretagne, et comprends-tu les problèmes auxquels est confronté Johan cette année avec cette usine autrichienne?
Ouais, moi je suis plutôt étonné des réactions des gens qui sont étonnés par les mauvaises performances entre guillemets de Johan, parce que ça n'a jamais été une machine capable de gagner. C'est une machine qui est nouvelle, hein, comparée à toutes les autres marques, et qui est dans un projet où ils doivent progresser, et ils avaient besoin de Johan pour progresser. Ils ont besoin de Dani et aussi Pedrosa, qui est pilote d'essai, pour progresser. Et voilà, moi j'ai eu la chance de rouler qu'une course, et encore la course n'a pas eu lieu, elle était annulée malheureusement, mais j'ai fait les essais en arrivant d'une Superbike et tout. Donc moi, il fallait également que je reprenne un peu le rythme. Mais c'est une machine qui ressemblait un peu à la Ducati que j'utilisais par le passé, si je peux dire, une machine agressive, une machine qui a un peu de mal à tourner, un peu les mêmes défauts que la Ducati, avec lequel il faut se battre. Et c'est sûr que c'est pas du tout le même pilotage que la Yamaha, même si j'ai jamais piloté proche de l'usine, mais je suis arrivé en Grand Prix en open avec un châssis et un moteur Yamaha, qui est une machine qui est très douce et qui convient parfaitement au style de pilotage de Johan. Comme de Lorenzo, et Lorenzo, on a vu que quand il a changé de marque, il a fallu longtemps pour s'adapter. Oui. Tous les pilotes n'ont pas la capacité d'adaptation d'un Marc Marquez, qui je pense est celui qui a la meilleure, même s'il l'a pas prouvé encore en MotoGP. Donc le niveau est tellement haut que il faut être à 100% de ses capacités et être capable de se battre à 100% de rouler au maximum de son potentiel. Et ça prend du temps. Il faut connaître la moto, il faut connaître l'équipe, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin, et que petit à petit les choses progressent. Ça fait que 3 courses que Johan est sur cette moto, et moi il n'y a rien d'étonnant. Je ne m'attendais pas à le voir se battre dans les positions dans lesquelles il se battait avec la Yamaha. Alors après, l'erreur qui a été faite de beaucoup de gens dans l'analyse, qui est une analyse souvent trop facile à faire dans la course, c'est-à-dire qu'il roulait beaucoup plus vite sur la Yamaha que ce que Paul roulait. Et il s'attendait à être, si on peut dire qu'il roulait une seconde plus vite que Paul sur la sur la Yamaha Tech 3.
Paul Espargaro, hein, pour être précis.
Voilà,
oui.
Paul Espargaro qui est son coéquipier chez KTM, et en regardant les chronos, s'il disait peut-être que il allait rouler une seconde plus vite que Paul sur la KTM, et s'il roule une seconde plus vite, il va pour la victoire.
Bien
mais
sûr.
Heureusement, c'est pas comme ça en course. En course, il y a plein de choses qui jouent, et Paul est un pilote qui a un style totalement opposé à Johan, qui est un pilote très agressif, qui se bat énormément avec la moto, qui est un pilote très très physique, qui a une grosse condition. Je pense que Johan également, mais en tout cas Paul est très très affûté, et il sait qu'il faut se battre avec cette moto, il est capable de le faire, et je pense que Johan petit à petit va comprendre le pilotage de cette moto, et ils vont également être capables de changer, d'adapter un peu cette moto au style de Johan.
De Johan. Et on dit justement que souvent, puis il n'y a qu'une douzaine de secondes à l'arrivée, tu me diras c'est beaucoup, mais Paul Espargaro termine 8e du dernier Grand Prix dont nous parlions, le Grand Prix des Amériques à Austin, et Johan a terminé 13e, il est malgré tout en progrès. C'est une question de confiance, on peut dire, Loris, la moto, confiance notamment dans le train avant, hein, je crois que c'est absolument capital pour pouvoir attaquer à fond.
Ouais, bien sûr, il faut être en confiance sur une moto, et une moto, c'est pas que de la théorie, et on peut rouler sur la meilleure machine sur le papier et être un des meilleurs pilotes et ne pas y arriver. On l'a vu aussi quand il allait sur la Ducati, qui était pas la meilleure machine, mais il avait plus de mal à rouler que Nick Hayden à l'époque, Rossi est quand même meilleur en pilotage qu'à Nick Hayden. Donc il faut être en confiance sur une moto. C'est un sport dangereux, il y a une prise de risque, et pour accepter cette prise de risque, il faut être en confiance avec sa machine. Et pour avoir, si on n'a pas cette confiance dans cette machine, on n'est pas capable de rouler à 100%, on n'est pas capable de surpasser, on n'est pas capable de faire ce que notre style de pilotage naturel nous permet, et d'utiliser ses points forts. Donc en fait, on rentre dans un peu une spirale un peu négative où on se plaint, on se bat, on essaie de trouver des solutions, et donc on a la tête qui pense aussi également à autre chose que son pilotage. On sait plein de choses, mais à l'heure actuelle, le niveau, il est tellement élevé en MotoGP et dans tous les championnats. Je regarde les 24 heures du Mans également, le niveau en endurance, il a augmenté et tout le monde est de plus en plus proche. Donc les détails font la différence. Et maintenant, on peut plus performer en MotoGP en roulant 90% de ses moyens. Sauf si on est Marc Marquez, et un peu à l'heure actuelle,
oui,
je pense que c'est le seul qui est capable de gagner les Grands Prix en n'étant pas à 100%, et encore, il fait des erreurs. Donc, il faut être en confiance avec sa machine, et c'est primordial. Et pour l'instant, il n'a pas trouvé cette confiance, mais Lorenzo a mis un an et demi à la trouver avec la Ducati. Et quand il l'a trouvé, la moto n'avait pas changé pour autant, mais il a gagné en dominant tout le monde. Donc, il faut juste être patient.
Merci beaucoup, Loris Bas, d'avoir été avec nous.
Merci, Loris.
Dimanche. Et à très vite dans votre temps sur RMC. Merci, Loris. Benoît, on rappelle le calendrier, ce qui nous attend en MotoGP.
Une bonne période pour les fans de moto qui sont européens, puisqu'on a 11 grands prix européens qui vont se succéder. Jean-Luc, ça va démarrer donc en Espagne le 5 mai. 19 mai, on le rappelle, le Grand Prix de France. Après l'Italie, la Catalogne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque ou encore l'Autriche. Tout l'été sera consacré au Grand Prix européen.
On termine Radio Paddock avec un mot des 24 heures du Mans Moto, Benoît.
Avec un homme qui est en train de faire une performance exceptionnelle qu'on connaît bien également en MotoGP, c'est Randy Lepunier. Je suis sûr que tu as sous les yeux, Jean-Luc.
Oui.
Il reste 1h05 de course au Mans sur les 24 heures moto, et Randy Lepunier est en train de mener son équipe Honda à la victoire. La Honda numéro 111 qu'il partage avec ses coéquipiers est en tête pour l'instant avec 10 secondes d'avance sur David Sheka qui est aux commandes de la Kawasaki numéro 11. La Kawasaki qui a dominé toute la course, mais le plus rapide depuis le début de ces 24 heures, c'est bien le Randy Lepunier, Jean-Luc.
Ah ben tu l'as bien souligné, effectivement. Écoute, ça me fait infiniment plaisir. En plus, c'est un excellent copain. Tu le sais, il intervient régulièrement dans Motors, ouais. Ancien pilote de Grand Prix, évidemment. Bah déjà dès qu'il s'est tourné vers l'endurance, ça a été le pilote le plus rapide. Après, on le sait bien, l'endurance et particulièrement les 24 heures du Mans, c'est compliqué. Faut tout mettre ensemble, faut aucune erreur. Écoute, on va croiser les doigts parce qu'il reste encore quoi une petite heure.
1h05.
Bah on va voir ça. En tout cas, on y croit. Ouais, c'est génial, c'est une très belle nouvelle.
Merci Benoît pour Radio Paddock. On se retrouve dans
un programme
sport dans quelques minutes.
Salut.
Les directs rapidement. Anthony Reich, France-Roumanie, la demi-finale de Fed Cup.
47 minutes de jeu et Caroline Garcia qui a stoppé l'hémorragie après avoir subi un 5-0. Elle a breaké la Roumaine. Elle était revenue à 5 jeux partout et 15-0 sur son service.
Le vélo, l'Amstel Gold Race, Arnaud Souk.
Il reste environ 140 km dans cette 55e édition. Toujours 11 hommes en tête, dont le français Julien Bernard, 8 minutes d'avance sur le peloton.
La suite de ces directs dans un instant avec Christophe. Christophe Cessieux dans l'intégral sport. Merci Jean-Luc.
Mais c'est toujours un plaisir. Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine prochaine. On va se régaler.
Exactement. Les qualifs à 14h, le Grand Prix à 14h10 dimanche prochain. Dans un instant, l'intégral sport. Christophe Cessieux prend la main. Et moi, je vous retrouve à 16h. À tout à l'heure.